Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette deuxième conférence autour de Shakespeare. Alors la semaine dernière j'avais fait une introduction très générale au théâtre de Shakespeare en rapport avec le thème du pouvoir. Et aujourd'hui je vais m'intéresser à certaines pièces, ce sont les pièces historiques de Shakespeare qui sont au nombre de 8 plus quelques autres que l'on peut ajouter. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans Richard II, on a une remarque très intéressante, une remarque métathéâtrale, c'est-à-dire une remarque qui parle du théâtre dans le théâtre. Et on nous dit que les tragédies historiques nous racontent les tristes histoires de la mort des rois, comment les uns ont été déposés, d'autres tués à la guerre, d'autres hantés par les spectres de ceux qu'ils avaient déposés. Toutes les pièces historiques de Shakespeare sont quasiment inspirées de l'histoire anglaise. On va s'intéresser aujourd'hui à la différence entre les faits et la fiction, entre l'illusion et la réalité, en s'intéressant en particulier à deux pièces, tout d'abord à Richard II, et puis ensuite à Henri VIII. Henri VIII qui est une pièce historique sans en être une, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et puis avant cela, je vais faire une introduction un peu plus générale sur l'ensemble des pièces historiques. Les pièces historiques sont très en vogue à la Renaissance. Pour vous donner quelques chiffres, on a 70 pièces écrites entre 1590, donc c'est-à-dire la date à laquelle Shakespeare commence à écrire, et 1604, c'est-à-dire l'avènement de Jacques Ier à peu près. Donc on voit que les Anglais sont friands de leur histoire. On a ensuite, entre 1605 et 1642, c'est-à-dire la date de fermeture des théâtres, on a 19 pièces historiques qui sont écrites, dont 7 entre 1605 et 1616, la mort de Shakespeare. On voit que le genre décline un petit peu, mais à l'époque élisabéthaine, il est vraiment très très en vogue. Pourquoi ? Parce que la Renaissance anglaise arrive tardivement, elle vient d'Italie, elle passe par la France avant d'arriver en Angleterre, et avant les Tudors, l'Angleterre n'est pas une grande puissance, et avec Élisabeth qui vraiment va donner toutes ses lettres de noblesse à son pays, on a un sentiment patriotique qui se développe de plus en plus en Angleterre, donc ce sentiment patriotique, il passe notamment par le théâtre et par ses pièces historiques. Donc les Anglais aiment voir leur histoire mise en scène, avec évidemment toutes les distorsions que cela comporte. François Larocque, qui est un spécialiste de Shakespeare à la Sorbonne, compare les pièces historiques aux mystères du Moyen-Âge. Les mystères sont ces pièces inspirées des épisodes de la Bible, qui ont une valeur didactique très forte. Elles permettaient aux croyants d'apprendre la religion par le biais du théâtre. Et les pièces historiques vont avoir la même valeur, le même but, cette dimension didactique avec les grands souverains anglais. Alors, chez Shakespeare plus particulièrement, les pièces historiques, on a deux tétralogies, c'est-à-dire deux fois quatre pièces. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc ça c'est juste un rappel. On a tout d'abord la première tétralogie, qui est composée des trois parties d'Henri VI. C'est une pièce qui a été... La vie du souverain est découpée en trois parties. Et Richard III. Donc ce sont ces deux souverains. C'est la guerre des deux roses, donc la rose blanche pour les York, la rose rouge pour les Lancastres. Elles sont écrites entre 1589 et 1592 et elles relatent des règnes pour Henri VI 1470-1471 et pour Richard III 1483-1485. Donc on est vraiment à la fin des Plantagenets et c'est l'avènement des Tudors d'Henri VII. Et puis la deuxième tétralogie, qui est en fait plus ancienne, avec cette fois Richard II, Henri IV en deux parties, et Henri V. Là, on s'intéresse plutôt à la guerre de 100 ans, pour des règnes qui sont donc Richard II 1377-1399, Henri IV 1399-1413, et Henri V 1413-1422. Une autre pièce qui peut être parfois classée dans les pièces historiques, c'est Henri VIII, dont je vous parlerai tout à l'heure plus en détail, qui est écrite beaucoup plus tardivement. Si vous regardez la chronologie des pièces historiques, on voit que Shakespeare n'en a pas écrit depuis 1600, donc 13 ans plus tard, il remet ça. Mais c'est, même si on a tous les éléments de la fresque historique, c'est plutôt ce qu'on appelle une romance tardive. J'en reparlerai tout à l'heure. Il faut remarquer que Henri VIII est la seule pièce de Shakespeare qui parle clairement d'un souverain Tudor. Toutes les autres pièces ne touchent pas à la dynastie Tudor. On voit par exemple Henri VII dans Richard III, mais il n'est pas l'objet d'une pièce à son nom. Et puis enfin, on a aussi le roi Jean, qui est une pièce un peu à part finalement, qui est une pièce très complexe, très très difficile à cerner. C'est sans doute la pièce la moins jouée de Shakespeare, même en Angleterre, qui pour le coup relate des événements beaucoup plus anciens, puisque le roi Jean, c'est Jean sans Terre, qui était au pouvoir de 1199 à 1216. La complexité de la pièce, c'est en plus vraiment quelqu'un de la Renaissance qui écrit sur le Moyen-Âge, donc avec tous les déplacements de valeurs, etc. Voilà, une pièce assez, assez complexe. Toutes ces pièces ont été publiées dans l'Infolio de 1623. L'Infolio, c'est la première édition complète des pièces de Shakespeare. Et la particularité de l'édition, c'est que les pièces ne sont pas publiées dans l'ordre où elles ont été écrites, mais dans l'ordre des souverains. Ça a été le choix fait par les éditeurs. Bon, ces pièces historiques, je pourrais vous les résumer une par une. À chaque fois, c'est la vie du souverain. Soit on va retracer toute sa vie. Henri VI, en trois parties, va retracer quasiment toute sa vie. Puis, sur certains souverains, comme Richard II, on va insister sur un événement particulier. J'en parlais tout à l'heure, Richard II, c'est la déposition. Richard III, c'est son ascension et sa chute. Donc, des épisodes précis de leur règne. Et puis, à ces pièces-là, on peut rajouter, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, les pièces romaines, donc Jules César, Antoine et Cléopâtre et Coriolan. Et puis Macbeth et Le Roi Lear, qui sont considérés comme des tragédies, mais qui ont des éléments historiques. Je vais repartir de la chronologie des pièces de Shakespeare, donc que je vous ai mis sur le polycopier. Et on apprend des choses en fait de cette chronologie. Tout d'abord, on remarque que toutes les pièces, comme je vous l'ai dit, ont été écrites, ne parle pas des Tudors, pardon, et elles ont toutes été écrites sous le règne d'Élisabeth. Il n'y a aucune pièce historique sous Jacques Ier, c'est tout sous Élisabeth. Et puis, bon, on a cet Henri VIII qui est à part. Et toutes ces pièces ont en commun de mettre en scène les troubles politiques du XVe siècle et les dangers de la guerre civile. C'est une volonté, c'est le mythe Tudor, c'est la propagande de la dynastie Tudor, l'idée que la paix civile, la concorde, l'harmonie n'a pu arriver en Angleterre que par la dynastie Tudor, que par l'avènement d'Henri VII au pouvoir. Donc on a une grosse partie de propagande, notamment dans Henri VIII, j'y reviendrai tout à l'heure, mais également dans Richard III, où Richard est présenté comme, Richard et ses ancêtres. Alors Richard III, c'est celui qui a tué femme, enfant et neveu pour accéder au pouvoir. Et on nous le présente comme un monstre, comme un symbole de discorde, comme un symbole de haine. Et puis, en même temps qu'on nous présente ce roi et ses ancêtres comme des gens mauvais pour le pays, on va nous vanter les mérites d'Henri VII, qui est vraiment le symbole de paix et d'un avenir radieux. Alors, c'est la citation qui est sur la deuxième page. Donc c'est l'acte 5, scène 8, donc la fin vraiment de Richard III. Et Henri nous dit « Nous unirons la rose blanche avec la rouge, si elle sourit aujourd'hui à cette belle entente après avoir blâmé leur longue inimitié. Un traître m'entend-il qu'il me dise Amen ? L'Angleterre fut folle et s'est longtemps blessée. Le frère aveuglément versa le sang du frère. Le père, en insensé, tua son propre fils. Et le fils fut contraint d'assassiner son père. C'est ainsi que se divisaient York et Lancastre, qu'on ne trouvait unique en leur division. À présent que Richmond avec Elizabeth, tous deux vrais successeurs des deux maisons royales, s'unissent en suivant la belle loi de Dieu, et que leurs héritiers, si Dieu le veut ainsi, offrent à l'avenir la paix au doux visage, l'abondance riante et la prospérité. Seigneur, ôte son fil au glaive de ces traîtres qui voudraient, ramenant ces jours cruels, te faire pleurer, pauvre Angleterre, d'autres fleuves de sang. Qu'ils meurent sans goûter les fruits de notre sol, ceux qui voudraient trahir la paix d'un beau pays. Au désordre civil, la paix succède enfin, qu'elle vive longtemps et que Dieu dise Amen. » Alors, ici, clairement, hein, vous avez au début de la citation « La rose blanche, la rose rouge, symbole des Lancastres, symbole des York, qui, une fois unis, donne la dynastie Tudor. » Elisabeth, alors Richmond, c'est Henri VII. Elisabeth, c'est Elisabeth d'York qui l'épouse. Henri VII est un Lancastre. Elisabeth d'York, comme son nom l'indique, est de l'autre famille. Par le mariage, c'est l'union des deux familles. Et clairement, on a des allusions à Henri VIII et à Elisabeth quand il mentionne ses potentiels héritiers. Et puis on a le vocabulaire de la paix, de la concorde, etc. Qui traverse toute la citation. Toute la partie sur le père qui a tué son fils, etc. En fait, là, c'est un renvoi à la troisième partie d'Henri VI, où on a une scène où les soldats, on nous raconte qu'ils ont été obligés de se tuer entre eux. Donc, on imagine, on suppose que les gens qui ont vu Richard III à l'époque avaient sans doute vu les pièces, les trois parties d'Henri VI auparavant. Quand on reprend cette chronologie, on se rend compte que sous le règne de Jacques Ier, les pièces qui ont été écrites, ce sont les tragédies du pouvoir et de sa légitimité, donc King Lear et Macbeth, et à la fois les pièces romaines qui questionnent notamment le tyrannicide. Donc là, c'est la question, c'est vraiment la grosse remise en question. Et puis, on remarque que Shakespeare n'a jamais osé donc toucher au Tudor, sauf à Henri VIII. Il attendra qu'Elisabeth soit morte pour pouvoir en parler. Et sans doute, il préfère s'éloigner des règnes des Tudors simplement pour éviter la censure de la part de la cour. Il y a de nombreux parallèles, mais il ne peut pas se permettre d'être trop explicite à ce moment-là. Alors, les sources de ces pièces historiques, puisque Shakespeare va s'appuyer sur des textes, la question c'est de savoir où a-t-il eu accès à tous les textes qui semblent inspirer son œuvre. Shakespeare, on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu dans les années 1580. C'est les années perdues de Shakespeare, on ne sait pas trop où il est quelque part entre Stratford et Londres. Il n'est pas allé à l'université, contrairement à d'autres dramaturges comme Christopher Marlowe, par exemple, qui lui a une culture universitaire. Et on a tous ces dramaturges qu'on appelle les university wits, qui sont des gens qui, dans leurs pièces, en fait, passent leur temps à mettre des références littéraires, culturelles, et il y a un peu une surenchère à celui qui mettra le plus de références culturelles. Shakespeare, on ne sait pas, mais on suppose peut-être qu'il a été précepteur dans des grandes familles et qu'il aurait eu accès à ce moment-là à des bibliothèques et qu'il aurait pu lire tous les auteurs classiques, notamment Ovide, les Métamorphoses qui l'ont inspiré, mais également des chroniques historiques, etc. Pour les pièces romaines, par exemple, la source principale, ce sont les vies parallèles de Plutarque, qui ont été traduits. L'ouvrage a été traduit en 1579. Et cet ouvrage présente 46 biographies présentées par pairs, et elles mettent en parallèle un grec et un romain célèbre, et ensuite une espèce de conclusion sur les deux personnages. Et c'est là-dessus que c'est sur cet ouvrage que dans cet ouvrage que Shakespeare, par exemple, va puiser son inspiration pour écrire Coriolan. Alors Coriolan, en quelques lignes, c'est l'histoire d'un patricien, Caius Marcius, qui se distingue au combat, mais qui voue une haine et un mépris très fort envers la plèbe, et il perd les élections consulaires. La perte de l'élection provoque une grande colère, et il est condamné à l'exil. En exil, il va s'allier avec l'ennemi, Volsque, et il revient pour assiéger Rome. Et à ce moment-là, les femmes de Rome vont trouver Coriolan pour l'empêcher d'assiéger la ville. C'est sa mère notamment qui va mener le combat. Et puis, une fois revenu à la raison, il conclut la paix, mais évidemment, il a trahi l'ennemi Volsque, et donc il sera tué à la fin de la pièce. Et dans Coriolan, au tout début de la pièce, on a la fable des membres et de l'estomac, qui est une fable sur le pouvoir et sur la double nature du corps politique. C'est-à-dire que le souverain, c'est à la fois un corps organique, mais c'est aussi le corps politique. On va comparer l'État au corps humain. C'est basé sur une fable d'Ésope que Plutarque va utiliser, et c'est la citation numéro 4 sur le polycope. Un jour, leur dit-il, tous les membres du corps humain se révoltèrent contre l'estomac. Il se plaignait qu'il demeurât seul oisif au milieu d'eux, sans contribuer au service du corps, tandis qu'il supportait toute la peine et toute la fatigue pour fournir à ses appétits. L'estomac rit de leur folie, qui les empêchait de sentir que, s'ils recevaient seuls toute la nourriture, c'était pour la renvoyer et la distribuer ensuite à chacun d'eux. Romain, ajouta-t-il, il en est de même du Sénat par rapport à vous. Les affaires qu'il prépare, qu'il digère, pour ainsi dire, dans ses délibérations afin de régler l'économie politique, vous apporte et vous distribue à tous ce qui vous est utile et nécessaire. Shakespeare va clairement reprendre cette fable-là et il va la réécrire, il va la dramatiser pour la pièce. Alors je ne vous ai pas mis la citation parce qu'elle est un peu longue, mais je vais vous la lire. C'est un dialogue entre Ménénus et un citoyen. Ménénus commence par dire « Un jour, tous les membres du corps humain se révoltèrent contre l'estomac. Voici leur plainte contre lui. Il disait que, comme un gouffre, il se tenait au centre du corps, oisif et inactif, engloutissant tranquillement la nourriture, sans jamais partager le travail des autres organes qui se fatiguaient à voir, à entendre, à parler, à instruire, à marcher, à sentir, ayant tous leurs fonctions mutuelles et servant, en ministre laborieux, les désirs et les vœux, les vœux communs du corps entier. » L'estomac répondit, le citoyen l'interrompt et dit « Ah, voyons, Seigneur, ce que l'estomac répondit. » Ménénus, je vais vous le dire. Il répondit avec une sorte de sourire qui ne venait pas des poumons, car si je fais parler l'estomac, je peux bien aussi le faire sourire. Il répondit donc avec dédain aux membres mutinés et mécontents qui, le voyant tout recevoir, lui portaient une envie aussi raisonnable que celle qui vous anime contre nos sénateurs, parce qu'ils ne sont pas comme vous. Le citoyen lui dit « La réponse de votre estomac, quelle fut sa réponse ?» Ah, si la tête majestueuse est faite pour la couronne, si l'œil sentinelle vigilante, si le cœur notre conseiller, le bras notre soldat, la jambe notre coursier, la langue notre trompette, et si tous les autres membres et cette foule de menus organes qui soutiennent et conservent notre machine, si tous... Ménénus, quoi donc? Il me coupe la parole, cet homme-là. Eh bien, quoi, voyons? Le citoyen, si tous voyaient ce corps mourant d'estomac, le gouffre du corps humain, prétendre leur faire la loi. Ménénus, eh bien, après... Le citoyen, si les principaux agents se plaignaient de l'estomac, qu'aurait-il à répondre ? Ménénus, je vous le dirai, si vous pouvez m'accorder un peu de ce qui est si rare chez vous, un peu de patience, vous la saurez, la réponse de l'estomac. Le citoyen, vous nous la faites bien attendre. Ménénus, remarquez bien ceci, mon ami. Notre grave estomac était réfléchi et nullement inconsidéré comme ses accusateurs. Voici sa réponse. Il est vrai, mes amis, vous qui faites partie du corps, dit-il, que je reçois d'abord toute la nourriture qui vous fait vivre, et cela est juste, car je suis l'entrepôt et le magasin du corps entier. Mais, si vous y réfléchissez, je renvoie tout par les fleuves de votre sang jusqu'au cœur qui est la cour de l'âme, et jusqu'à la résidence du cerveau. Car les canaux qui serpentent dans l'homme, les nerfs les plus forts, les veines les plus petites, reçoivent de moi cette nourriture suffisante qui entretient leur vie. Et quoi que vous tous à la fois, mes bons amis, c'est l'estomac qui parle, écoutez-moi. Citoyen, oui, bien, bien, Ménénus, quoique vous ne puissiez pas voir tout de suite ce que je distribue à chacun en particulier, je peux bien, pour résultat du compte que je vous rends, conclure que vous recevez de moi la farine la plus pure et qu'il ne me reste à moi que le son. Eh bien, qu'en dites-vous ? Le citoyen, c'était une réponse. Mais quelle application en ferez-vous ? Ménénus, les sénateurs de Rome sont ce bon estomac, et vous êtes les membres mutinés. Examinez leurs conseils et leurs soins. Pesez bien toutes choses dans l'intérêt de l'État, vous verrez que tout le bien public auquel vous avez part vous vient du Sénat et jamais de vous-même. Qu'en penses-tu, toi, que je vois tenir dans cette assemblée la place du gros orteil dans le corps humain ? Le citoyen, du gros orteil, moi ? Comment cela ? Ménénus, parce qu'étant un des plus bas, des plus lâches et des plus pauvres partisans de cette belle révolte, tu vas le premier en avant. Misérable, toi qui es du sang le plus vil, tu es le premier à faire courir les autres là où tu as quelque chose à gagner. Donc on voit bien que Shakespeare, en reprenant cette fable des membres et de l'estomac, s'interroge sur la question du pouvoir et sur le lien entre microcosme et macrocosme. C'est tout ce système de référence à la Renaissance. Hormis cette source romaine qui est uniquement donc pour les trois pièces romaines, évidemment, Shakespeare va s'appuyer sur deux grandes chroniques. Tout d'abord, les chroniques de Raphaël Holinshed, qui ont été publiées pour la première fois en 1577, puis republiées en 1587. Holinshed est engagé à Londres par un éditeur qui s'appelle Reginald Wolfe, pour la petite histoire, et qui a entrepris de créer une cosmographie universelle. Et c'est l'idée, il veut retracer l'histoire du monde, du déluge, jusqu'au règne d'Élisabeth Ier. Donc c'est quand même un long travail. Ce projet ne sera pas abouti puisqu'il meurt en 1573. Et puis en 1577, Holinshed publie le travail qui a été effectué sous le titre Chronique d'Angleterre, Écosse et Irlande. Il y a en tout 2835 pages, mais Holinshed n'est pas très satisfait de son travail et il va engager une deuxième réédition. Il meurt en 1580 et la deuxième édition est publiée donc 7 ans après. C'est une édition remaniée, réécrite pour améliorer le contenu. L'autre chronique, c'est la chronique de Hall, qui retrace en fait, elle, une chronique beaucoup plus courte, uniquement l'accession au pouvoir d'Henri IV en 1399 jusqu'à la mort d'Henri VIII en 1547. Il va s'appuyer notamment sur le récit d'un autre historien qui est Polydore Virgile, qui a écrit l'Historia Anglica, c'est un Italien qui est venu à la cour et qui va écrire. Donc déjà, toutes ces sources-là, elles sont déjà biaisées puisqu'elles sont plus ou moins écrites pour faire plaisir au souverain. Et puis, de manière beaucoup plus étonnante, Shakespeare va s'appuyer aussi sur des sources littéraires, notamment d'autres pièces qui ont été écrites, mais également des biographies. On a par exemple pour Henri V une biographie latine qui est écrite à l'époque où Henri V était lui-même roi, donc on imagine bien la subjectivité de cette biographie. Et puis également d'autres textes, parfois des textes philosophiques, comme le Prince de Machiavel, par exemple, publié en 1532. Donc, on a des chroniques historiques qui sont biaisées, plus les distorsions que Shakespeare va en faire. Donc, vous imaginez bien que ces pièces historiques ne sont pas des sources fiables pour les historiens. Alors, les distorsions que l'on trouve, alors tout d'abord, les déplacements temporels et spatiaux pour des raisons dramatiques. Par exemple, dans Henri VIII, Henri rencontre Anne Boleyn lors d'un bal masqué qui est donné par Wolsey, mais en fait, on sait très bien qu'à l'époque, il la connaissait déjà. C'est simplement pour redonner une chronologie plus simple à la pièce. On va aussi, par exemple, condenser le temps. C'est-à-dire que quand on a des périodes où il ne se passe pas grand-chose, on les passe sous silence. Ou, par exemple, quand il va enchaîner Henri VI et Richard III, on a une condensation de 12 ans qui est passée sous silence pour faire la pièce. Ça évite une rupture, tout simplement, entre les deux textes. On va également enlever les personnages secondaires qui n'ont pas une grande importance. On les oublie complètement. On va également modifier le caractère des personnages, c'est-à-dire que les rois, on va insister sur leurs vices ou sur leurs vertus, mais étant donné que les pièces servent à montrer l'absence d'harmonie, on va insister sur tout leur travers, sur tout leurs défauts. Complètement passer sous silence certains événements historiques, puisque on va imaginer, Shakespeare pense que, notamment dans Richard III, il y a des références à Henri VI et il part du principe que les gens ont vu la pièce ou du moins la connaissent, donc il n'a pas besoin d'en reparler. Au niveau de la représentation du pouvoir dans les pièces, alors la première tétralogie décrit principalement les ravages qu'engendre la faiblesse ou la corruption du pouvoir et les choix politiques motivés seulement par l'ambition personnelle. La fin du cycle, c'est l'arrivée des Tudors au pouvoir. Et puis la deuxième tétralogie, c'est à la fois Richard II qui perd son royaume, on en reparlera tout à l'heure. C'est Henri V qui s'intéresse aux prises de position sur la politique guerrière, par exemple, etc. Et puis, quand on regarde en fait l'évolution des pièces, on a une évolution de la pensée de Shakespeare. Alors, dans l'ouvrage de John Zambay, qui s'intéresse donc à la question du pouvoir, il remarque trois étapes en fait dans le théâtre de Shakespeare. Tout d'abord, dans la première tétralogie, donc Henri VI et Richard III, Shakespeare nous dit en gros que la rébellion contre un roi légitime et pieux est mal. Et il insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un monstre comme Richard pour le faire. Donc, on justifie à ce moment-là la dynastie Tudor. Ensuite, de Richard II à Henri V, on est en plein dans l'idéologie Tudor. À ce moment-là, la rébellion, même contre un tyran, est complètement impensable. C'est notamment l'idéologie que vont transmettre les homélies sans ces textes religieux et politiques qui sont dits durant la messe. Et puis enfin, dans les tragédies et les pièces romaines, on a vraiment un changement de ton avec une remise en question de toute cette doctrine. Ça correspond donc à la création de Jules César en 1599, qui insiste sur, pas César, mais sur Brutus, son fils, et sur l'assassinat de son père. Et puis en même temps, la rébellion, dont je vous ai parlé la semaine dernière, des sexes contre la reine. Et Shakespeare, maintenant, il va justifier le tyrannicide. Il le fait de manière voilée, en déplaçant le contexte, il ne peut pas se permettre de le faire, de manière ouverte. Et on est à une période où Jacques Ier va publier le Basilicon de Rome, et il insiste sur la notion de droit divin, sur l'absolutisme. Les Stuarts, c'est une dynastie absolutiste. Et pour lui, bah, évidemment, la chair du roi, c'est la chair de Dieu, donc on ne peut pas y toucher. Mais Shakespeare, lui, il remet tout ça en question. Donc il y a quand même un côté très subversif dans les pièces romaines. Voilà, en gros, pour vous situer un peu toutes les pièces. Maintenant, je vais prendre deux exemples plus particuliers. Tout d'abord, Richard II, et puis ensuite, Henri VIII. Alors, Richard II, tout d'abord, quelques éléments biographiques. C'est le 8e roi de la dynastie des Plantagenets. Il est né en 1367 et il accède au trône en 1377. Il n'a que 10 ans à ce moment-là, à la mort de son grand-père, Édouard III. On est en pleine guerre de 100 ans et il ne va pas régner au départ. Et il aura un conseil autour de lui. Les premières années de son règne, donc bon, pas de problème particulier, le conseil est en place. Et en 1381, il va gérer sa première affaire, c'est la révolte des paysans qui revendique la fin du servage. Il a une très bonne gestion de la crise, donc plutôt une bonne chose. Et par contre, il va se mettre à dos pas mal de parlementaires, puisque il est entouré de courtisans qui ont une forte influence sur lui, pas toujours une très bonne influence, parfois c'est assez néfaste, et donc les ces nobles vont reprendre le pouvoir. Donc on a des tensions évidemment entre le roi et eux, et puis pendant 10 ans ça se passe bien, il y a une cohabitation entre eux qui est plutôt bonne. Et puis par contre à partir de 1397 et les deux dernières années de son règne, il va faire exécuter la plupart de ces gens là qui avaient tenté de reprendre le pouvoir. C'est une fin de règne très tyrannique d'après les historiens. Et en 1399, après la mort de son oncle Jean de Gand, il déshérite le fils de ce dernier, qui est Henri de Bolingbroke, qui avait été préalablement contraint à l'exil. Henri Bolingbroke va revenir en Angleterre, avec évidemment la volonté de récupérer la couronne. Il va y arriver, et il prend le pouvoir, c'est Henri IV, c'est lui. Richard mourra l'année suivante en captivité, sans doute assassiné. On n'a pas de certitude historique, mais c'est en tout cas la version qui nous est présentée par Shakespeare. La pièce de Shakespeare retrace les dernières années du règne de Richard II. Elle commence par l'exil de son cousin, donc Bolingbroke. Et puis on a son retour en Angleterre, on a la déposition de Richard II jusqu'à son assassinat. On a clairement dans cette pièce une dimension tragique. Richard, c'est un héros tragique. D'ailleurs, le titre de la pièce est « La tragédie de Richard II ». Donc, une pièce qui reprend les codes de la tragédie. Tout d'abord, évidemment, son destin tragique. Et puis, bon, la catastrophe de toute tragédie, c'est sa chute, donc qui est suivie de sa mort. Il a, évidemment, comme tous les héros tragiques, il a un défaut. Ce défaut tragique qui le mène à sa perte. Et son héros, c'est sa faiblesse. Son défaut, pardon, c'est sa faiblesse et son caractère capricieux. Richard II est présenté comme un roi orgueilleux, plutôt narcissique. Voilà, des caractéristiques qu'on retrouve chez de nombreux politiques à toute époque. L'origine de sa chute, puisqu'il y a toujours une origine à la chute, c'est dans Richard II, la chute, elle se trouve hors de la diégèse, elle est hors de la pièce, et elle se passe avant. On nous en parle, en fait, c'est tout simplement c'est le meurtre de Gloucester qui avait été ordonné par Richard. Donc c'est cet événement-là qui va le conduire à sa perte. Alors Richard n'a aucune, comme je vous le disais, aucune valeur du monarque. Alors pour Shakespeare, dans Macbeth, il nous donne toutes les valeurs que doit avoir un roi. Il nous dit que ces valeurs sont la justice, la véracité, la modération, la constance, la bonté, la persévérance, l'humilité, la clémence, la piété, la patience, le courage et la fermeté d'âme. Si vous trouvez un politique qui a toutes ces qualités-là, ça peut être pas mal. Donc, voilà, ça c'est dans Macbeth, hein, quand on en parle, je vous en reparlerai la semaine dernière justement de la conception du pouvoir dans cette pièce-là. Alors que Richard, dans la pièce, on nous dit à l'acte 2, scène 1, que c'est un roi ô combien dégénéré. Tout parallèle avec des politiques ayant exercé serait fort, mais... Et c'est un roi qui est tyrannique, hein, Richard, il envoie son cousin en exil. C'est un pouvoir purement arbitraire, il est arrogant, il accable ses sujets d'impôts, les caisses sont toujours vides. Et il est mal conseillé, il a beaucoup de flatteurs autour de lui. Bon, voilà, je vous laisse faire les liens que vous voulez sur ce roi-là. La question en fait qui se pose dans Richard II, c'est quelle est l'attitude qu'il faut avoir face à un tel roi ? On est dans une période où le régicide est inenvisageable, et pourtant Bolingbroke va se rebeller et va lever une armée étrangère contre lui lorsqu'il est en exil. Alors, ce qui permet en fait finalement d'accepter la mort du roi, c'est tout simplement Richard qui va lui-même accepter de perdre son pouvoir en fait. On lui prend pas directement le pouvoir, il va lui-même le donner. Et puis, le fait qu'il consente lui-même à sa propre chute, à sa déchéance, la dimension tragique, il se dit lui-même traître comme les autres, permet une justification supplémentaire. À ce moment-là de la pièce, au moment où il accepte de rendre le pouvoir, on est très proche du chaos. On a donc à la fois la rébellion de Bolingbroke, mais on a également aussi le soulèvement des nobles et du peuple. Donc, pour éviter le chaos, finalement, c'est pas plus mal, c'est même mieux que Richard accepte de perdre le pouvoir. Un pouvoir qui est plus ou moins inexistant déjà. Shakespeare ne va pas justifier le régicide à la fin de la pièce. Justement, il va restaurer la morale. C'est la citation suivante sur votre polycopier. Et pour dans l'idée, après Richard II, il va écrire Henri IV. Donc c'est vraiment la continuité de la pièce. Et le fait d'avoir déposé Richard II va être lourd de conséquences et il va le payer dans son règne. Et c'est déjà annoncé à la fin donc de Richard II. On nous dit, Exton, je ne te remercie pas, car l'acte inonymieux commis par ta funeste main va retomber sur ma tête et sur ce pays renommé. Sire, j'ai agi sur un mot de votre bouche même. Qui a besoin du poison, ce n'est pas parce qu'il aime, et je ne t'aime point. Sa mort, je l'ai souhaitée, mais mort, je l'aime et je hais qui l'a tué. Emporte le poids de ta conscience pour prix de ton labeur, sans éloge de moi ni princière faveur. Va errer avec Caïn parmi les ombres de la nuit, ne montre jamais ta tête au jour quand la lumière luit. Donc vous voyez finalement là il y a une espèce de pas de rédemption mais voilà bon ok je l'ai fait tuer mais c'est pas moi finalement c'est à dire que on va toujours demander à quelqu'un de le tuer mais on se décharge hein, c'est moi ça me faisait penser à faire des SK mais bon c'était une autre chose. Et donc une fois qu'il est dépouillé de son propre pouvoir, comment peut-il transmettre le pouvoir? C'est vraiment la question qui se pose. Et on a à l'acte 4, scène 1, on a une scène de sacre inversé. C'est la citation suivante. Bolingbroke, acceptez-vous de renoncer à la couronne? Dire oui? Non. Non qui est oui, puisque je dois n'être rien à moi. Et donc je nie ce non, puisque je me rends à toi. Et maintenant, vois comme je me détruis. Je donne ce lourd fardeau retiré de ma tête. Bolingbroke reçoit la couronne et ce sceptre encombrant déposé de ma main, Bolingbroke reçoit le sceptre, ce pouvoir royal dont s'enorgueillissait mon cœur. Toi qui as tout obtenu, que tout te soit un bien, puisses-tu longtemps sur le trône de Richard vivre et régner, et Richard dans la fosse sous terre bientôt reposer. Richard, du moment qu'il a perdu le pouvoir, il n'a plus de raison de vivre et la mort va devenir un sujet grandissant dans la pièce à partir de l'acte 3. Et il y a vraiment une prise de conscience et on a justement dans la pièce toute une réflexion sur la prise de conscience de ce corps politique, à la fois le corps organique de Richard, voué à mourir, mais également le corps plus large, politique, de l'État. Dépossédé de son pouvoir, il ne lui reste que ce corps mortel. Donc la mort est quelque chose d'inévitable. On a à ce moment-là donc deux conceptions du pouvoir qui s'opposent. Alors tout d'abord, l'idée de volonté divine, c'est-à-dire que l'homme n'a pas de pouvoir sur la fatalité de cette histoire. C'est une vision qui est plutôt moyenâgeuse. Et puis on a une autre vision plus moderne, c'est-à-dire que l'individu a quand même un pouvoir pour façonner l'histoire. Et les qualités de Bolingbroke vont lui permettre en partie d'infléchir le cours des événements, et c'est le moment idéal pour devenir roi. Donc l'idée est qu'il peut beaucoup plus, il a un pouvoir d'action. Alors question ultime, qu'est-ce qu'un roi qui n'est plus roi? Lire dans la tragédie du même nom se pose la même question après avoir perdu son trône. Richard ne trouve pas sa place, il ne trouve pas son rôle. Là, on est complètement dans une dimension métathéâtrale. On est clairement dans le théâtre qui parle du théâtre. Et tout le théâtre de Shakespeare, régulièrement, s'interroge sur cette dimension-là. Il y a énormément de références au monde dramatique. Et puis, quel est son rôle face au nouveau roi? Et puis, on voit clairement que son horizon se réduit. Et ça, c'est très clair dans la symbolique des lieux. C'est-à-dire qu'on va passer d'abord... c'est le palais, ensuite c'est la salle de l'abdication, puis la prison, puis sa tombe. Donc on voit vraiment que tout se resserre autour de lui. Cette dimension métathéâtrale, bon là, alors je ne sais pas si je vous l'ai mis dans la citation numéro 7. Ainsi, à moi tout seul, je joue maintes personnages dont aucun n'est content. Parfois, je suis roi, alors les trahisons me font souhaiter d'être un mendiant, et c'est ce que je suis. Alors la misère oppressante me persuade que j'étais mieux quand j'étais roi, alors je suis roi de nouveau, et bientôt, je pense que je suis détrôné par Bolingbroke, et aussitôt, je ne suis plus rien. Mais quoi que je puisse être, ni moi ni aucun homme qui n'est qu'un homme ne sera satisfait de rien jusqu'à ce qu'il soit soulagé de n'être rien. Donc là, acte 5, scène 5, on est proche de son assassinat. Pour conclure sur Richard II, la vision que l'on a aujourd'hui de Richard, cette vision populaire, elle est en grande partie due à Shakespeare, qui nous le présente comme cruel, irresponsable, vindicatif, qui finalement, on arrive à lui trouver une sympathie, un intérêt uniquement parce qu'il meurt. C'est assez dramatique, mais on aura la même chose avec Macbeth, hein. On arrive à leur trouver de la sympathie que parce que finalement ils se conduisent eux-mêmes à leur père, donc ça nous permet d'avoir un autre sentiment envers eux. Et en fait, c'est tout simplement cette vision, elle vient de Hall, donc la chronique de Hall qui a inspiré la pièce. Et je vous disais tout à l'heure que ce sont des chroniques qui sont pas toujours objectives. Et clairement, Hall avait toujours critiqué Richard II, notamment, et avait comme idée que tout ce qu'il y avait avant Henri VII, c'était pas bon pour le pays. Alors maintenant, on va passer à l'autre bout de la dynastie, de l'œuvre de Shakespeare, en parlant d'Henri VIII. Alors Henri VIII, bon, le roi sans doute le plus populaire de l'histoire anglaise. Quelques éléments biographiques pour commencer. Il naît en 1491, il devient roi à la mort de son père en 1509, il régnera jusqu'en 1547. Il est deuxième dans l'ordre de succession après Arthur. Arthur, c'est son frère aîné, qui va épouser Catherine d'Aragon. Et il meurt très très rapidement. Et il l'épouse en 1501, il meurt en 1502. Et en fait, pour conserver l'alliance avec l'Espagne, on va demander à Henri d'épouser Catherine. Donc on se repasse Catherine d'Aragon de frère en frère dans la famille. On marie Catherine et Henri. En 1527, Catherine n'a toujours pas donné d'héritier mâle à Henri, elle n'a donné qu'une fille, c'est Marie. Elle n'est plus très fertile. Et puis, c'est le moment où Henri va rencontrer Anne Boleyn, sa deuxième épouse, en 1527. Il va vouloir divorcer. Évidemment, il ne peut pas, le pape refuse le mariage. Il demande une annulation d'abord en disant « Oui, mais j'ai épousé la femme de mon frère, donc ma belle-sœur. » Ce qui veut dire que, on s'appuie sur des passages de la Bible en disant que, ben, en fait, le mariage, il ne peut pas être bon de toute façon, et les hérétiques qui vont arriver, ça ne sera pas bon. Donc, il faut annuler le mariage. Il peut, parce que s'il demande de divorce, et s'il divorçait, il serait excommunié. Il ne veut pas, et c'est un fervent catholique. Donc, l'annulation est refusée, le divorce, pas possible en restant catholique. Donc, c'est le schisme henricien, 1534, l'acte de suprématie, qui lui permet d'épouser Anne Boleyn. Anne Boleyn ne donne pas d'héritier mâle, elle va donner une fille, Elisabeth, puis elle va faire plusieurs fausses couches, et puis après, on n'a toujours rien. Donc, il se lasse et il décide de la faire décapiter. Pour la petite histoire, elle aura quand même la chance d'être décapitée à l'épée plutôt qu'à la hache. Il paraît que ça fait moins mal. Je ne sais pas, mais bon. Puis, il épouse Jane Seymour, sa troisième femme. Et enfin, Jane lui donne un héritier, c'est Edward. Et puis, Jane, pour la petite histoire, elle meurt d'une fièvre puerpérale. Ensuite, il épouse Anne de Clèves, avec qui il reste marié 6 mois. Au bout de 6 mois, il n'a toujours pas consommé le mariage. Elle est répudiée. Je crois que vous avez dit, regardez des gravures d'elle, vous comprendrez peut-être pourquoi le mariage n'a pas été consommé. Puis, Catherine Howard, qui est la cousine d'Anne Boleyn, qui va elle aussi finir décapitée pour adultère et trahison. Apparemment, c'était un peu la Carla Bruni de la cour. Et puis, enfin, il épouse en dernière noce Catherine Parr. Catherine Parr, qui a failli y passer aussi, elle a failli être décapitée. Mais c'est une femme qui est assez intelligente. Alors, Henri est plutôt resté catholique. Catherine Parr, même si elle est baptisée, elle a plutôt une sympathie pour le protestantisme. Elle va quand même, sans ouvertement dire qu'elle penche du côté des protestants, ça va se savoir. Elle va notamment fréquenter des gens de ce côté-là. Et donc, Henri, ça arrive aux oreilles d'Henri. Et par chance, en fait, Catherine, quelqu'un la prévient, lui dit « Fais attention, ta tête est vraiment mise à prix, quoi, pour le coup. » Et Catherine, qui va faire preuve d'une grande rhétorique, va aller voir Henri et lui dire « Mais où avez-vous vu que j'étais protestante ? C'est uniquement pour vous divertir que je me permets d'exposer des idées comme ça. » Et puis, bon, ça passe et Henri meurt. Catherine part, se remarie et puis elle mourra elle aussi d'une fièvre puerpérale. Pour retenir, juste pour info, si vous voulez retenir l'ordre des femmes et comment elles ont fini, c'est divorcée, décapitée, morte, divorcée, décapitée, survécue. Voilà, c'est pour retenir, il y a une symétrie dans les 6 femmes. Les 6 femmes officielles, hein, puisqu'on sait qu'Henri a eu aussi de nombreuses maîtresses et de nombreux enfants illégitimes. Henri a donc 3 enfants. Quand Elisabeth naît, bon, Marie est considérée comme illégitime. Puis quand Édouard naît, évidemment, Elisabeth et Marie sont considérées comme illégitimes. Et c'est Édouard qui prend le pouvoir. Quelques mots rapidement sur la réforme. Alors, Henri VIII est clairement hostile à la réforme. Hein. La réforme, on parle des Amants d'Allemagne. Ça arrive en Angleterre, un peu tardivement. Henri, non, il est vraiment, c'est un fervent catholique. Il va recevoir même le titre de défenseur de la foi par le pape. Mais en même temps, il se rend compte que l'influence de Rome en Angleterre est un peu trop forte. Donc, premier problème. Et puis, il est très proche du cardinal Wolsey, qui est du même avis. Et c'est lui qui va être envoyé à Rome pour négocier l'annulation du mariage. Il n'y arrive pas, il tombe en disgrâce auprès d'Henri, évidemment. Et il sera remplacé par Thomas More, qu'on connaît nous surtout pour Utopia, en fait. Mais Thomas More s'oppose au divorce. Il démissionne de sa charge en 1532. Et puis, il est emprisonné et décapité. C'est pas réservé aux femmes d'Henri VIII. Et puis donc ensuite, c'est le schisme, hein, donc l'anglicanisme qui naît, et Henri peut enfin avoir le pouvoir sur l'Église. La pièce de Shakespeare, qui date donc de 1613. Elle a été a priori écrite en collaboration avec un dramaturge de l'époque, John Fletcher, 1579-1625. On suppose, hein, d'après les études qui ont été faites, les études statistiques, qu'ils ont écrit à peu près la moitié chacun de la pièce. La pièce, en fait, présente divers événements. Alors, elle est assez dure à résumer, cette pièce, puisqu'il y a énormément de personnages qui gravitent tout au long du texte. Alors, elle commence par l'accusation de Buckingham, un peu l'ennemi du cardinal Wolsey, donc il le fait accuser de trahison. Henri a une grande confiance en Wolsey, donc il fait un procès pour se débarrasser de Buckingham. Puis on voit Wolsey qui fait preuve de ressentiment et d'hostilité envers Catherine. Il s'oppose à elle. C'est lui qui va permettre la rencontre entre Henri et Anne Boleyn lors d'un banquet. Catherine va être jugée, elle va reprocher à Wolsey ses machinations contre elle. Le roi va défendre Wolsey en disant que c'est pas ses idées à lui, mais c'est bien ses idées à lui. Enfin, c'est pas les idées de Wolsey qu'il a, mais ses idées à lui. Les idées sur la légitimité de leur mariage, il s'interroge là-dessus. Catherine va s'offusquer. On a le divorce, on a un complot ensuite contre Wolsey. On découvre qu'une série de lettres de Wolsey écrites au pape ont été données au roi et montrent qu'il joue un double jeu. À la fois, il soutient Henri, mais auprès du pape, il soutient l'Église catholique. Et on voit clairement que Wolsey perd les faveurs du roi à ce moment-là. Anne est couronnée reine. On voit Catherine quasiment sur son lit de mort, qui n'a jamais accepté de perdre le pouvoir. Et puis la pièce se conclut sur la naissance d'Elisabeth et son baptême. Rien n'est dit sur la décapitation d'Anne Boleyn dans la pièce. On voit donc qu'on a deux éléments importants dans la pièce. Tout d'abord, les événements qui précipitent la séparation avec Rome, le schisme. Et puis enfin, le divorce avec Catherine, le remariage et la naissance. On a donc en fait deux sphères dans la pièce qui s'opposent, à la fois la sphère politico-religieuse, qui est une sphère publique, et puis la sphère familiale, une sphère privée, mais on voit clairement que l'une influence l'autre. Et puis, on voit que c'est l'affrontement de deux forces qui se partagent le pouvoir. Alors, à l'intérieur de la cour, c'est évidemment le pouvoir royal, à l'extérieur de la cour, c'est la papauté. Alors, dans la pièce, Henri VIII n'est finalement pas le personnage le plus important, et s'il y avait une figure à retenir, c'est celle de Wolsey, qui est considérée par les acteurs comme le personnage le plus intéressant à jouer, parce que beaucoup plus ambigu qu'Henri, beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe. Et puis bon, comme on parle d'Henri VIII, on va parler des femmes surtout, hein, elles sont à l'honneur. Et on voit clairement que Shakespeare donne beaucoup plus de constance à Catherine qu'à Anne Boleyn. Anne Boleyn est très très peu présente dans la scène, elle doit avoir dans la pièce, elle doit avoir je crois 4 scènes en tout et pour tout. Elle a la scène où elle rencontre Henri VIII où elle ne parle même pas, c'est lui qui parle pour elle. Ensuite elle est couronnée, et une fois qu'elle est couronnée, elle est réduite purement à sa fonction de génitrice, hein, il faut qu'elle donne un héritier, c'est vraiment le rôle qu'on lui donne. Et puis Catherine, elle est rendue plutôt attachante par Shakespeare. Ce qui est étonnant, puisque la pièce va quand même célébrer la réforme alors que Catherine était une fervente catholique. Bon, c'est un choix dramatique. Pardon. Et rien n'est dit, donc je vous disais, sur la disgrâce et la décapitation d'Anne, puisque évidemment, Anne étant la mère d'Elisabeth, on ne peut pas critiquer ouvertement la mère d'Elisabeth. Dans l'histoire avec un grand H, Catherine n'a jamais accepté de ne plus être reine. Elle s'est toujours considérée tout le reste de sa vie comme la seule épouse légitime et la seule reine légitime de cette période. Et tous ses servants ont continué à l'appeler reine, même si Henri, lui, avait refusé qu'elle porte le titre. Elle gardera le titre de son Altesse la princesse douairière de Galles en reconnaissance donc de son rang comme veuve de son frère. Et Catherine se voyait vraiment reine, et on le voit dans la pièce de Shakespeare. Catherine va avoir une vision onirique, elle fait un rêve et le rêve est mis en scène juste avant de mourir, et on voit Catherine se couronner elle-même. On sent qu'elle ne veut pas lâcher la couronne, et il y a toute une symbolique de l'idée que elle n'est plus reine sur terre, mais une fois qu'elle va arriver au paradis, elle sera à nouveau reine. Donc quelque part elle est sauvée, et sa fin, même si elle meurt, est plutôt positive. Henri, lui, est plutôt présenté comme quelqu'un d'innocent, hein, il n'a pas fait grand-chose. On nous dit qu'il est vraiment manipulé par Wolsey dans la pièce. Évidemment, on ne peut pas, avec un souverain comme Henri VIII, se permettre d'être trop critique. Le titre, ce qui est intéressant, c'est de voir le titre alternatif de la pièce. La pièce a été jouée sous le titre « All is true », « Tout est vrai ». Et on a, tout au long de la pièce, on a des références à cette idée de véracité, l'idée que la pièce elle repose vraiment sur des choses véridiques, sur une objectivité complète, alors qu'on voit clairement que non. Et si on compare en fait les sources sur lesquelles Shakespeare s'est appuyé et son texte, on voit clairement que Shakespeare n'a jamais pris autant de liberté par rapport aux sources historiques pour écrire Henri VIII. Et Henri VIII, c'est vraiment la mythification complète des Tudors. Un critique qui s'appelle Northrop Frye a dit « Le mythe est l'un des extrêmes de la création littéraire, l'autre extrême, étant le naturalisme. Entre les deux, la romance. » Et clairement, quand je vous disais tout à l'heure que c'est pas vraiment une pièce historique, toutes les pièces historiques se terminent mal. On voit toujours un souverain qui meurt, qui est remplacé par un autre, etc. Dans Henri VIII, au contraire, on va symboliser l'harmonie retrouvée, l'avenir plus ou moins proche, comme un moment, comme quelque chose de positif, de glorieux pour le pays, etc. Alors, la part du mythe dans cette pièce-là. Alors, tout d'abord, donc évidemment, hein, cette réconciliation marquée par l'arrivée du nouveau-né. L'avenir radieux pour le royaume en la personne d'Elisabeth, la dimension romanesque, l'amour dirige tout. On voit qu'Henri VIII est un grand romantique. Il rencontre Anne Boleyn donc dans une scène de bal qui nous renvoie clairement à la scène de bal de Roméo et Juliette. Alors pour vous resituer, Roméo s'invite au bal des Capulets, il est masqué, il aperçoit Juliette qui est en train de danser. Il la voit, c'est l'amour au premier regard, c'est le coup de foudre. Et puis on a la scène, où ils s'embrassent et où on découvre que c'est les deux ennemis héréditaires. Dans Henri VIII, Henri arrive donc à un banquet, c'est une scène masquée également. Il remarque Anne, il la prend par la main, il danse avec elle et lui fait sa déclaration. Anne, elle ne dit rien, elle n'a sans doute rien à dire, et c'est vraiment une scène visuelle. Et puis à la fin, il nous dit voilà que la fête va continuer et que il s'en va en gros draguer Anne. Et puis enfin la réconciliation est complète, puisque Catherine, avant de mourir, va se réconcilier avec Henri. L'histoire n'est quand même pas aussi favorable. Enfin, la grande histoire n'est pas aussi favorable. Alors, pourquoi Shakespeare va mythifier Henri VIII? Pourquoi cette pièce-là, cette pièce qui arrive en 1613, c'est la dernière pièce qu'il va écrire? Tout simplement, cette pièce coïncide en fait avec le mariage de la fille de Jacques Ier, qui s'appelle Elisabeth, qui va épouser Frédéric V, roi de Bohême. Et comme l'a souligné le critique Gilles Monsarrat, qui a préfacé une édition bilingue de chez Robert Laffont, il nous dit « Henri VIII est destiné à une cour et à un public qui relisait et revivait un passé conforme aux aspirations présentes du pays, qui allait nettement vers le protestantisme. Shakespeare adresse un message de réconciliation et ne cherche pas à célébrer une victoire partisane. » Donc, à la fin, clairement, c'est la dernière citation que je vais vous lire, on voit qu'il glorifie Henri, il glorifie Elisabeth, et par la même occasion, il va glorifier Jacques. Donc on a vraiment toute l'histoire qui se retrouve englobé dans cette fin de pièce. Et donc c'est la, la grande réplique de Cranmer. Alors Cranmer, je vous en ai pas parlé, il a montré son soutien à Henri VIII lors de la crise du divorce, et il deviendra à la mort du roi le conseiller d'Édouard VI. Édouard VI a une dizaine d'années quand il arrive au pouvoir, donc il est entouré lui aussi de conseillers, dont Cranmer. Il est favorable à une réforme protestante radicale qu'il va imposer durant le règne d'Édouard. Et puis évidemment, lorsque Marie Tudor arrive au pouvoir, Marie étant une grande catholique, elle le fera exécuter comme tant d'autres. Cranmer nous dit donc: « Sire, laissez-moi parler, car le ciel me l'ordonne et que personne ne voit flatterie en mes paroles. » Déjà là, la rhétorique, il va faire que ça jusqu'à la fin de la réplique. « On y trouvera le vrai. » À nouveau, vous avez la notion de vérité qui revient. Cette royale enfant, le ciel soit toujours avec elle, bien qu'en son berceau promet déjà pourtant pour ce royaume mille et mille bienfaits que le temps mûrira. Il faut savoir que quand Élisabeth est née, elle avait peu de chance à la base de régner. Donc là, vraiment, on a une réécriture de l'histoire. Elle sera, mais parmi ceux qui vivent aujourd'hui, peu peuvent voir cette perfection, le modèle des princes de son temps et de tous ceux qui suivront. La reine de Saba n'a pas été plus avide de sagesse et de belles vertus que ne le sera cette âme pure. Toute grâce princière qui façonne le magnifique chef-d'œuvre qu'elle est, avec toutes les vertus qui ornent les gens de bien, seront redoublées en elle. La vérité la nourrira. Saintes et célestes pensées seront toujours ses guides. Elle sera aimée et crainte, les siens la béniront. Ses ennemis trembleront comme fait un champ de blé dont les épis battus s'inclinent tristement. Le bien croîtra avec elle. En son temps, chacun mangera en sûreté sous sa vigne ce qu'il aura planté et chantera de joyeux airs de paix pour tout le voisinage. Dieu sera connu dans la vérité et ceux qui l'entourent apprendront d'elle les voies parfaites de l'honneur. C'est de lui qu'ils tireront leur grandeur, non du sang. Cette paix ne s'endormira pas avec elle, mais comme lorsque meurt l'oiseau merveilleux, le virginal phénix, alors virginal a un rapport à son mythe de reine vierge, de ses cendres renaît un nouvel héritier, tout aussi admirable que lui, de même, quand le ciel la retirera de ses sombres nuées, elle lèguera la faveur divine à quelqu'un qui, des cendres sacrées de l'honneur de la reine, montera comme un astre, égalant son renom et y restant fixé. Paix, abondance, amour, vérité et terreur, servant l'enfant choisi, seront alors les siens et s'attacheront à lui comme la vigne. Partout où le ciel brillera dans le ciel, là seront son honneur, la grandeur de son nom qui créeront de nouvelles nations. Là, c'est une allusion à l'alliance entre l'Angleterre et l'Écosse, puisque là, on parle de Jacques VI d'Écosse qui est devenu Jacques Ier d'Angleterre. Il prospérera et comme un cèdre des montagnes, ses branches s'étendront au-dessus des plaines alentours. Nos petits-enfants verront cela et béniront le ciel. Pour le bonheur d'Angleterre, elle deviendra princesse âgée. Des jours en grand nombre la verront et aucun qui ne soit couronné d'un haut fait. Puissais-je ne rien savoir de plus, mais il faut bien qu'elle meure, il le faut. Il faut que les saints la reçoivent, vierge encore, lisse parfaitement sans tache. On peut en douter. Elle sera mise en terre et le monde tout entier la pleurera. On a à la fois... on a un paradoxe dans cette dernière citation. On a à la fois la mythification d'Élisabeth, là clairement elle est vraiment portée au nu, mais en même temps on sent quand même Shakespeare un peu fatigué, un peu désabusé, puisque normalement un monarque de droit divin ne meurt pas, le roi est mort, vive le roi, et là quand même on nous dit oui, elle va mourir, elle va vieillir, donc on a ce côté quand même très très déçu finalement de Shakespeare, ce côté cette fatigue en fait cette fatigue du monde qu'il ressent. Il faut savoir que Shakespeare à la fin de sa vie a été mêlé à des affaires judiciaires à propos de terres qu'il possédait, etc. Et puis il y a eu toutes les histoires avec son gendre présumé qui n'a pas pu finalement épouser sa fille. Puis aussi Shakespeare avait perdu un de ses enfants en bas âge, et Shakespeare ne s'était jamais a priori remis de la mort, puisqu'il n'avait même pas pu être présent à ce moment-là. Voilà pour ce qui peut expliquer ce désenchantement de la part de Shakespeare. Alors voilà, ces pièces historiques, à la fois elles relisent le passé pour servir le présent, elles éduquent en même temps qu'elles divertissent, elles retracent les règnes de l'histoire anglaise sous forme dramatique. On voit que toutes ces pièces ont diverses fonctions, Et on voit clairement que le public aime ce genre de pièces, même si avec les années ce genre va tomber en désuétude. On voit clairement que toute la question du pouvoir est vue à travers le filtre des Tudors, ce mythe qui se met en place à cette époque-là et qui justifie le faste du règne élisabétain. Et puis pour le coup, la semaine prochaine, je regarderai l'inverse, c'est-à-dire le pouvoir qui n'est pas légitime, les gens qui usurpent leur pouvoir. C'est Richard III qui tue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, femme, frère et neveu pour monter sur le trône. Comment Lear sombre dans la folie en même temps qu'il perd son pouvoir. Comment Macbeth, qui ne justifie le pouvoir que par le meurtre. Donc on verra tous ces gens-là. Et pour conclure, je vais vous donner une citation extraite de Jules César que je trouve très intéressante. On parle de grandeur, alors toute personne ayant gouverné avec une petite taille n'est pas visée. Le mal de la grandeur, c'est quand du pouvoir, elle sépare la conscience. Merci beaucoup.